bonsoir et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo, toujours pour raison d'examen avec une équipe réduite, il y a juste Nicolas et Olivier. Alter Echo, vous le savez, c'est le mercredi en direct, tous les mercredis à 22h sur Radio Campus 107.2, rediffusion sur Radio Campus le vendredi à 14h, et puis une nouvelle rediffusion sur Radio Panique 105.4 le mardi matin vers 10h. Vous avez également le site internet www.collectif.net/alterecho en un seul mot avec CH. Trois sujets pour l'émission d'aujourd'hui, le très regretté décès de la très regrettée princesse Liliane et ses répercussions dans la presse avec une petite conférence à la clé. Ensuite, une interview de Franz Losi qui réagit notamment à certains propos de Olivier Deleuze dans cette émission il y a 2 semaines. Et puis pour terminer, Nicolas nous fera un topo sur le sommet de Bali, ou plutôt sur l'échec du sommet de Bali qui concernait une préparation du sommet de Johannesburg sur le développement durable, un échec retentissant, vous le verrez. Mais pour commencer, quelques brèves sur la liberté d'expression. Tout d'abord en France, un militant de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, comparaîtra lundi 17 juin devant le tribunal correctionnel de Chambéry, en Savoie, pour avoir écrit « Sharon assassin, un état pour les Palestiniens et vive l'intifada ». Ces slogans figuraient sur quelques affiches manuscrites que les militants de la LCR avaient collées en ville. On se dit que normalement, la liberté d'expression vaut pour tous et qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Mais pas pour le procureur de la ville, c'est un certain monsieur Pain, et il n'a pas hésité à saisir le tribunal qui poursuit ce militant de la LCR pour, tenez-vous bien, provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard du peuple israélien. Aux dernières nouvelles, la LICRA locale, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, tout en étant quand même consciente du caractère extravagant de l'initiative de ce magistrat, aurait accepté de se joindre au procès en se portant partie civile. Et il faut noter que cette entreprise n'est pas la première du genre, elle vise à intimider le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien en insinuant que toute dénonciation des crimes de l'armée et du gouvernement israélien équivaudrait à de l'antisémitisme ou de la haine contre le peuple israélien. Et peu importe dans ces conditions que les accusations soient dépourvues du moindre fondement. En tout cas, nous avons bien reçu le message et à partir de maintenant, nous ne parlerons plus qu'en bien de l'onctueuse Ariel Sharon et de son excellent régime d'apartheid. En Belgique, par contre, c'est pour une fois un dénouement judiciaire heureux qui est à signaler. La semaine dernière, nous avions interviewé Douglas de Koning sur l'affaire qui opposait son journal, de Morgen, à la SNCB. La SNCB voulait forcer 2 journalistes du Morgen à remettre les documents sur lesquels était basé un article accablant pour les nombreuses magouilles d'Euroliège TGV, la fameuse filiale de la SNCB qui s'occupe de construire une gare TGV à Liège. Et cette Euroliège TGV est un véritable trou noir pour les finances publiques. La SNCB, dans cette affaire, avait même trouvé un juge disposé à imposer aux 2 journalistes visés une astreinte de 25 euros par heure où ils ne remettraient pas les documents. Et ces documents devaient évidemment permettre à la SNCB d'identifier la fuite et de la faire taire surtout. De Morgan a fait opposition à ce jugement et l'affaire est passée au tribunal de première instance où la normalité a finalement quand même été rétablie. Les astreintes ont été annulées et la SNCB n'obtiendra ni le moindre document ni le moindre euro. Et le juge s'est d'ailleurs explicitement référé à la jurisprudence de la Cour européenne de justice en matière de secret des sources. Et ce principe se trouve donc heureusement confirmé par une nouvelle jurisprudence belge. Et voilà, ben le vif du sujet, c'est le décès de la princesse Liliane, chose affligeante. Vendredi dernier, justement, le Cercle Républicain a organisé une conférence sur le thème de la monarchie dans les médias. Et question timing, on pouvait difficilement faire mieux.
C'est tombé à point.
Puisque le jour même, à 13h, effectivement, la princesse Liliane, la deuxième femme du roi Léopold III, passait l'arme à gauche. De là soupçonner le Cercle Républicain d'avoir empoisonné la pauvre femme. Non.
Moi je pense que c'est pour qu'on parle encore un peu de la famille royale.
Un pas que nous ne franchirons pas. Le conférencier du jour était Marc Litz, le directeur de l'Observatoire du récit médiatique qui est relié à l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. C'est donc un invité peu suspect d'antimonarchisme et j'ai évidemment pas résisté à l'envie de lui poser quelques questions. Est-ce que vous estimez que dans les médias en général, on assiste à ce qu'on peut appeler du journalisme quand il s'agit de la famille royale? Je précise la question, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'au moment où il y a des événements royaux comme une naissance, un mariage, un décès ou quoi, les JT sont occupés à 90% par ça et c'est en général un ton plutôt béat. Donc est-ce qu'on peut encore appeler ça, à votre avis, du journalisme?
Il faut d'abord distinguer deux types de situations. Je crois qu'effectivement, quand on a des événements comme des mariages ou des funérailles, c'est encore plus clair pour les funérailles, on est dans une circonstance particulière qui appelle un genre de commentaire particulier, qui sera plus effectivement hagiographique ou de compassion ou d'émotion. Et donc c'est moins le moment de la distance critique et de la mise en cause du fonctionnement, par exemple, de la monarchie. Mais c'est vrai aussi dans une famille, quand on se retrouve à un décès, on va pas commencer à régler tous ses comptes. Il y a un moment de répit, si je puis dire,
Oui.
entièrement.
Dans les familles, non, mais par exemple, quand un VDB meurt, on rappelle sa carrière politique avec aussi tout ce qu'elle a connu d'écueils et de zones obscures. On pourrait faire la même chose, étant donné qu'il y a un fait politique pour un monarque.
C'est vrai, et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir comment ça s'est passé pour VDB, parce qu'on a vu, c'est une des premières fois qu'on assistait à ça, à propos effectivement de la mort d'un homme politique qui était Premier ministre pendant longtemps, et qu'on ait reparlé des affaires, etc. Mais c'est là-dessus que j'allais enchaîner, c'est aussi sur le fait que, bon, il y a quand même d'abord la circonstance, mais il faut aussi tenir compte d'évolution. Si on regarde la presse, la radio et la TV, il y a 20 ans même, il y a encore 15 ans d'ici, on était toujours dans la géographie par rapport à la famille royale, par rapport à la monarchie, extrêmement révérencieux. On n'interviewait pas les rois et les princes, on ne posait pas de questions qui n'étaient pas connues à l'avance et pour lesquelles on ne pouvait pas préparer la réponse, et il fallait rester dans une certaine sorte de révérence. J'ai l'impression que en 93, la mort du roi Baudouin, à la fois on est resté dans ce ton-là avec beaucoup d'émotions, une émotion extraordinaire, et que à la fois les journalistes se sont emballés là-dessus, en même temps ils se sont rendus compte que peut-être il était temps un petit peu de réfléchir à ce type de fonctionnement, et que depuis lors, on tient parfois un double discours. À la fois, on continue à faire plutôt de la géographie aux circonstances particulières, et en même temps on essaye de joindre à cela un discours de mise en perspective. Je ne veux pas dire un discours critique, je ne crois pas qu'effectivement il y ait un discours très critique sur la monarchie dans la presse belge, mais qu'en tout cas on soulève les questions de la dotation royale, les excès par exemple du prince Laurent. Bon, c'est anecdotique, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de tabou comme tel sur la famille royale, mais qu'on vient d'une telle tradition de respect par rapport à elle, qu'on reste encore un peu dans cette tendance-là, qui a une forme, je dirais, d'autocontrôle peut-être, ou d'autres sortes de journalistes, qui n'osent pas aller aussi loin à la famille royale que lorsqu'ils sont face à un homme politique ou un sportif ou à une vedette du cinéma.
Ouais, tout ça, en tout cas, n'a pas l'air de déboucher sur des grands débats. En tout cas, on pose peut-être certains petits sujets, mais il n'y a jamais eu de vrai débat dans les médias, en tout cas, à mon sens.
Non, je ne pense pas, parce que si on regarde par exemple toute la question des dotations, ou les réactions d'un sénateur comme de Decker en Flandre, etc., ou même du côté d'Écolo chez certains, du côté francophone, on voit bien qu'on ose en tout cas poser la question de la monarchie, de dotation au-delà de celle du prince Philippe, de la succession au trône, d'éventuelles limitations du pouvoir du roi. Donc, c'est des questions qui émergent, mais qui émergent dans une logique quand même encore très très polie et très aseptisée, je le veux bien.
Oui, et dans les cercles politiques, parce que votre réponse est significative, vous parlez de Decker, d'Écolo, mais ce n'est pas du tout les médias qui se chargent de lancer le débat. Ils se contentent de relayer des sources qui sont soit politiques, soit quand le sujet est vraiment polémique, on dit tel journal a dit que, mais on ne prend jamais la responsabilité de s'engager soi-même, en tout cas très rarement.
Et alors, on pourrait répondre de deux manières à cela. Un, est-ce que c'est la fonction du journaliste d'initier des débats, ou est-ce qu'effectivement il doit être à l'écoute de ce qui se passe dans la société et en faire état et éventuellement confronter les points de vue? Je crois que oui, je ne pense pas qu'il ait une fonction militante à avoir, en tout cas dans la presse quotidienne d'information. Et il y a un deuxième aspect, c'est la question plus générale de la place de la presse d'opinion en Belgique. On voit bien que dans une crise de la presse qui continue à se manifester fortement, surtout pour la presse écrite quotidienne, il y a de moins en moins d'argent, donc moins de journalistes, moins de moyens, et donc on essaye de faire une presse qui essaye d'attirer un certain public, et donc on joue plus la proximité, l'émotion, beaucoup de sport, beaucoup de faits divers. Il n'y a plus de presse d'opinion, plus de presse de débat en Belgique actuellement, il faut bien le reconnaître. On voit bien que pour diverses raisons, on va vers une presse écrite, et encore plus en radio et télévision, en tout cas dans le jeu télévisé, vers de l'instantané, du proche, de l'immédiat. Et que donc c'est une vraie question démocratique là sur la possibilité encore de débat public autour de grandes questions de société qu'on a aujourd'hui. et qu'on a vu ressurgir en France au moment des élections récemment et qui se pose en Belgique aussi sur l'ensemble des décisions politiques de la société.
Pour terminer, est-ce que vous parliez d'une absence d'homogénéité dans les médias par rapport à ce genre de sujet? Quelles sont les différences que vous constatez par exemple entre la presse audiovisuelle et la presse écrite ou entre la presse néerlandophone et la presse francophone?
Si on prend d'abord néerlandophone, francophone, j'ai l'impression que la presse néerlandophone actuellement est plus critique que la presse francophone. C'est peut-être lié aussi à une évolution du sentiment par rapport à la monarchie, en tout cas dans la classe politique flamande, je ne sais pas si c'est dans le cas dans l'opinion, et que donc il y a un relais plus grand d'un débat public sur le rôle de la monarchie dans la presse flamande, plus fort dans la presse francophone. Alors, si on regarde presse écrite par rapport à la radio et la télévision, c'est vrai qu'en télévision, RTL, par exemple, a bien compris qu'après la mort du roi Baudouin, que c'est un sujet porteur, que donc ils ont mis en place Place Royale, qui est bien une émission, on va dire, de divertissement, on pourrait la qualifier comme cela, pour un large public, du type point de vue image du monde, et que donc là, c'est bien une logique d'audience qu'ils ont mis en place un magazine qui est destiné à faire rêver, comme le dit la présentatrice, c'est pas du tout un magazine d'information. Non, je crois que par ailleurs, si on regarde aussi les médias audiovisuels publics, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'ils sont attentifs à ce que fait la royauté sans la surreprésenter, mais parce que c'est une des branches des pouvoirs exécutifs et législatifs, et que donc, effectivement, quand il y a une manifestation dans laquelle une personne de la famille royale est présente, effectivement, on aura assez facilement un sujet dessus, mais qui est en général assez bref.
Ben voilà, puisque l'actualité nous offre une si belle illustration, on peut confronter les déclarations de Mark Litz à la réalité médiatique de la semaine. La distinction qui apparaît avec le plus d'évidence, c'est celle entre la presse flamande et la presse francophone. Tout d'abord, dans la Libre Belgique, on pouvait s'y attendre, c'est oui. Effectivement la géographie. Ce week-end, la Libre titrait en première page, une grande première page consacrée à Liliane, enfin une plus petite maintenant depuis que la Libre a rétréci. La princesse Liliane s'en est allée, mission accomplie, 3 points de suspension. Ça faisait référence au fait qu'elle avait publié, il y a un an tout juste, les mémoires politiques de Léopold III, comme il le lui avait demandé, mission accomplie. Suivent 3 pleines pages de louanges empreintes de lyrisme, écoutez plutôt. Est-ce parce qu'elle avait été, ces dernières années, tout entière tendue vers ce grand retour de son époux sur la place publique, que la vie de la princesse Liliane de Réty s'est éteinte vendredi, un peu comme un baisser de rideau sur la scène où la pièce est achevée? On croirait du Frédéric Mitterrand,
c'est
bon. Pour le reste, c'était une femme absolument superbe, phrase percutante de Hervé Asquin, qui avait joué Shakespeare au théâtre, qui avait évacué pendant la guerre en tant qu'infirmière un hospice de vieillards sous les tirs allemands, qui a été une vraie mère pour les petits princes orphelins. Et là, je cite de nouveau, c'est Liliane qui soigne les enfants quand ils sont malades et la mauvaise alimentation, à cause de la guerre, fait qu'ils le sont souvent. Elle se donne tant que des problèmes cardiaques déjà lui imposent de garder le lit. C'est une femme aussi qui s'est consacrée après la guerre à de nombreuses bonnes œuvres. Et bon, d'accord, son mariage secret avec Léopold était inconstitutionnel, d'accord, puisque le mariage religieux qui a eu lieu 3 mois avant le mariage civil, et qu'en plus, personne n'a demandé l'accord du gouvernement qui était à ce moment-là en exil à Londres. Mais qui pourrait lui en vouloir pour des peccadilles pareils? C'est vrai, sur la fin, son caractère s'est fait un peu ombrageux et elle avait des sautes d'humeur, mais là, je cite de nouveau, celle pour qui, à son tour, le temps vient de s'arrêter, fut une princesse enthousiaste jusqu'à l'excès, sûre d'elle-même et dominatrice, sincère jusqu'à l'imprudence, intelligente quand elle ne laissait pas sa passion l'emporter, un peu moins lucide et plus farfelue avec l'âge fatalement, mais toujours grande dame, de cœur certes et de pique aussi. C'est beau, non? Pour le reste, la Libre Belgique a demandé leur réaction à Pierre Mertens et à Herman De Croo. Le premier avait eu des déboires judiciaires avec Liliane suite à un bouquin de fiction dont elle ressortait pas assez grandie à son propre avis. Et pourtant, malgré ça, Pierre Mertens estime que la princesse était simple et digne. De Croo, par contre, c'est l'homme qui aime se faire mousser avec tous les grands de ce monde. Et il fallait donc s'attendre à ce qu'ils ne disent pas un mot de travers sur une si grande dame. Et en effet, elle avait une force de caractère, un charme intellectuel, etc. etc. Je ne vous dis que ça. Pour finir, dans un édito, Paul Vaud fustige tous ceux qui ont pu éventuellement la critiquer. Bon, d'accord, elle a sans doute eu une grande influence, et parfois néfaste même, à vous Paul Vaud, sur la vie de ce pays, mais la façon dont on l'a critiquée a parfois été honteuse d'après lui. Les historiens n'ont qu'à faire leur travail pour éclaircir les ondes d'ombre, mais qu'on ne vienne pas la salir. C'était pas de la citation littérale, mais du paraphrasement. Zage. Dans Le Soir, on est déjà un peu plus explicite et un peu plus équilibré. Dans son édito, Béatrice Delvaux se demande néanmoins Je cite, mais quel crime a donc commis cette princesse pour amener les Belges à repousser un roi qu'ils avaient admiré au début de la guerre? Qu'a-t-elle fait de si terrible pour s'attirer les sobriquets et les insultes d'une population qui avait jusqu'alors adulé ses reines? Liliane Balz, une petite fille riche élevée et programmée pour accomplir l'ascension sociale d'une famille, a tout simplement mis l'histoire au service de ses ambitions étriquées, perdant de vue une notion à laquelle elle n'avait sans doute jamais été confrontée, la raison d'État. Injustifiable politiquement, l'influence exercée par la belle Liliane sur son époux de roi reste pourtant terriblement compréhensible, mieux perceptible, se mesurant à cette fascination que ce beau visage n'a cessé d'exercer. Et si Liliane de Réty emporte définitivement dans sa mort la fameuse question royale, son pouvoir d'attraction et sa séduction restent, eux, entiers, mystérieux. Le soir semble donc un peu souffler le chaud et le froid. Le procédé est le suivant. On encense la princesse, mais on effleure quand même impertinemment les sujets qui fâchent pour qu'on ne puisse pas après faire le reproche que ça n'a pas été dit. Cela dit, l'historique du soir est assez complet, mais relativement indulgent. On parle évidemment du mari. On rappelle évidemment le mariage caché et inconstitutionnel, comme la libre, ainsi que les relations troubles avec les fachos de l'époque. Ça, il faut le noter. Par exemple, le couple royal fréquente un nazi notoire. Hitler envoie des fleurs et des félicitations pour le mariage. Et Léopold le remercie d'ailleurs. Et les frères de Liliane, notamment, aiment beaucoup Mussolini. Mais, dit-on dans le soir, c'est une attirance probablement plus émotive que réellement idéologique. Heureusement, on avait eu chaud, hein. Et enfin, Léopold a aussi, pendant la guerre, accepté de rencontrer Hitler à Berchtesgaden. C'est en fait le seul journal qui rappelle autant de petits faits croustillants et un peu brunâtres. Le soir souligne également l'influence moins heureuse, comme ils disent, de Liliane sur son mari et le fait qu'elle a régenté Laeken entre 1950 et 1960, date à laquelle Baudouin s'est marié et Liliane et Léopold ont été contraints de déménager à Argenteuil. Au retour du voyage de noces de Baudouin et de Fabiola, souligne le soir, Liliane avait mis à profit leur lune de miel pour emporter une partie de mobilier de Laeken en déménageant. Mais tous ces éléments sont distillés dans un long texte qui est finalement assez complaisant et on dira donc en conclusion pour le soir, mi figue, mi raisin. Pour ce qui est des réactions enregistrées par le soir, c'est la même chose. Pour l'un de ses familiers, Liliane était une narratrice fascinante, douée d'une mémoire prodigieuse, d'un grand sens de l'humour et d'un goût délicieux pour l'anecdote. Alors que pour Antoinette Spack, l'autre personne à qui on a demandé sa réaction, elle a joué un rôle négatif dans la vie politique du pays. Mais quand même, elle était très belle et elle avait quand même plein d'admirateurs. Un coup à gauche, un coup à droite, et tout le monde est content. Alors la presse flamande, c'est un tout autre son de cloche. D'abord, on accorde beaucoup moins d'espace à ce qui est somme toute quand même un non-événement. Et de mort, il y a un rappel la perquisition dont le château d'Argenteuil, le château de Liliane donc, avait fait l'objet l'année dernière dans le cadre de la commission d'enquête sur l'affaire Lumumba. Et de mort, il y voyait d'ailleurs un signal qui serait la fin de la toute-puissance occulte et de l'immunité qui était prêtée à la monarchie. Pour le reste, voilà aussi comment de Morgan décrit le début de la guerre pour Léopold. Après l'invasion allemande en 1940, le chef de l'État décide, contre la volonté du gouvernement belge, de rester en Belgique et de partager le sort de ses prisonniers de guerre, comme il disait lui. En réalité, il résidait dans son palais, il essayait de négocier en vain avec Hitler sur sa position au sein de l'ordre nouveau, et il épousa dans le plus grand secret Liliane de 15 ans, sa cadette. À part ça, dans De Morgan, le curriculum de Liliane est succinct et correct. On note tout de même encore le népotisme aussi de Liliane, qui n'hésitait pas du tout à faire créer des postes fictifs pour planquer ses proches, comme par exemple son frère, pour qui on a créé la vice-présidence de la Banque nationale du Katanga, en pleine crise du Congo, au moment où le Katanga faisait sécession. Rien de plus controversé, mais pas de problème pour Liliane. Sinon, l'émission Terzak de la VRT a rappelé les liens particuliers entre Liliane et Baudouin. Entre le retour de Léopold et Liliane en Belgique en 1950 et le mariage de Baudouin avec Fabiola en 1960, l'ancien couple royal, donc Liliane et Léopold, exerce une énorme influence sur ce tout jeune roi Baudouin. Et il est même tellement proche de sa belle-mère que le premier ministre de l'époque, Achille Van Acker, s'en inquiète. Dans ses mémoires, il suggère à demi-mot que Baudouin et Liliane couchaient ensemble. Enfin, en tout cas, il avait trouvé très étrange
Tiens, tiens.
leur insistance à dormir dans la même cabine de train-couchette pour un voyage en Suisse. Et il trouvait aussi un peu bizarre leurs mots d'amour qui étaient apparemment souvent très ambigus. Et c'est donc pas une spéculation de journaliste en mal de sensation, mais réellement les inquiétudes formulées à
Donc
l'époque par le Premier ministre
le roi Baudouin aurait une vie sexuelle alors.
auraient eu. Et ça valait donc quand même d'être rappelé. Notons au passage que le soir a brièvement effleuré ce même sujet. Sinon, l'influence de Liliane sur Baudouin inquiétait même tellement que le cardinal de l'époque, le cardinal Van Rooij, a pris l'initiative. Il a été chercher une non-irlandaise et il lui a donné pour mission de ramener à Baudouin une jeune fille noble et surtout très chrétienne. Et bon, on le devine, c'est comme ça que Fabiola est entrée dans la famille, aux grandes dames d'ailleurs de Liliane et Léopold qui ont été mis devant le fait accompli, on ne les avait pas prévenus. Et ensuite, c'est le gouvernement Esquens qui a forcé en 1960 l'ancien couple royal à déménager à Argenteuil pour évacuer cette influence néfaste que tout le monde ressentait vivement. Et donc, on comprendra que Liliane et Fabiola se détestaient cordialement, et c'est encore une chose que la presse francophone rappelle avec beaucoup d'indulgence et force non-dit. Pour conclure, citons un reportage d'anthologie de la RTBF qui pourrait s'intituler « Comment parler pour ne rien dire ?». La RTB a interrogé à propos de l'organisation des funérailles Jacques Nauterman, qui est l'auteur du livre « La République du Roi ». Alors on demande à ce brave homme si Liliane aura des funérailles d'État, et il répond que ça va dépendre des désirs exprimés par la famille. On lui demande si on pourrait imaginer un enterrement entièrement privé. Il répond que c'est possible, mais peu probable, avant de conclure qu'il penche plutôt pour une cérémonie discrète, mais qu'on le saura lundi. Est-il certain qu'elle sera enterrée dans la crypte royale de l'église de Laeken? Ce n'est pas certain, mais c'est très probable, répond-il. Eh ben, il n'y a vraiment rien à dire. Regardez la RTBF, ça rend décidément plus intelligent. Et voilà, après Mathieu A, si vous êtes des fidèles, j'espère que vous vous souvenez de l'interview d'Olivier Deleuze il y a 2 semaines. Et dans cette interview, le secrétaire d'État au développement durable plaidait notamment pour une militarisation de l'Europe face à la toute-puissance des États-Unis, on s'en souvient. Et il se déclarait aussi satisfait de la participation gouvernementale des Verts. Alors, 15 jours avant, un magazine flamand plutôt bas de gamme, Paix Magazine, publiait une interview très intéressante de Franz Losy, le chef de groupe Agalef au Sénat. Et dans cette interview, pas trace de langue de bois, Losy énumérait tous les problèmes de notre pauvre petit pays et il faisait un bilan très mitigé de cette même participation gouvernementale que Deleuze semblait adorer. Et nous sommes donc allés trouver Franz Losy pour lui demander ce qui ne va pas chez nous et lui soumettre aussi quelques déclarations d'Olivier Deleuze.
Il donne son avis sur justement son appréciation du gouvernement.
Et tout le reste.
Ah, d'abord, je suis content d'être au gouvernement. Hein. Et je pense que pour l'avenir, c'est très important que les Verts restent au gouvernement. Mais je pense que ce qu'on dit que la maladie belge, hein,
C'est-à-dire que vous pouvez un peu décrire cette maladie belge?
l'affairisme, on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde connaît tout le monde dans le monde du pouvoir. Hein. Pas les gens au niveau normal de la société, mais. Une fois qu'on monte au pouvoir, tout le monde connaît tout le monde et on s'arrange, on ne s'embête pas. On laisse faire tous les gens ce qu'ils veulent faire. Donc on laisse faire. On regarde dans l'autre côté si ça nous dérange. Donc cette mentalité qui est fondamentalement mal, hein, qui n'est pas bien pour l'avenir de la démocratie, ça ne change pas assez vite. Je suis convaincu que seuls les Verts peuvent changer cette mentalité, parce qu'ils sont assez jeunes dans la politique. Ils ne sont pas liés au pouvoir traditionnel, financier, judiciaire, économique, etc. Donc ils peuvent changer les mœurs politiques vraiment d'une manière sincère, mais. Dans cette première période que nous sommes au pouvoir, je suis un peu déçu que l'avancement est beaucoup trop lentement que je voulais.
On peut peut-être un peu passer les constats en revue. Il y a notamment la justice où ça va pas du tout. Il y a un problème, d'après vous aussi, avec le pouvoir du PS en Wallonie et dans le pays entier. qui génèrent d'autres problèmes comme celui de la SNCB. Pour commencer par la justice, vous proposez par exemple, tout simplement, sans langue de bois, de virer le procureur général André Vanhadeneau, de virer le procureur du roi de Bruxelles Benoît de Jomep. Quels sont les problèmes, notamment dans la justice, et que posent aussi ces deux personnes?
À Bruxelles, concrètement, la justice, c'est le bordel. On n'arrive pas à gérer les choses. Donc, la réalité est vraiment exceptionnelle. Il y a un manque de magistrats. Il y a donc des gens qui ne veulent plus postuler pour un poste de magistrat à Bruxelles parce qu'on voit que rien ne change, rien ne bouge. La justice à Bruxelles, ce n'est plus de la justice.
C'est-à-dire concrètement?
Ben, il y a tant de dossiers qui n'avancent pas. Il y a tant de dossiers qui. Enfin, surtout quand ça devient un peu difficile au niveau financier, on n'a pas les moyens, on n'a pas les gens et on n'a pas la volonté d'aboutir. Donc, même dans les entreprises, quand le chef responsable d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qui a des réussites comme le procureur de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles, normalement on dit bon, c'est fini, on cherche quelqu'un d'autre, hein, on n'avance pas. Donc on ne réussit pas à gérer la justice à Bruxelles.
Mais vous ne parlez pas que d'incompétence, vous parlez aussi de blocage délibéré dans certains dossiers.
Oui, ben, il y avait un dossier concret. Hein, c'était le dossier de Neufchâteau à Bruxelles, donc le dossier de X, où le procureur général a vraiment fait des propositions, donc de éloigner les enquêteurs. Ça a avéré que c'est faux, donc que la base de l'éloignement de ces deux enquêteurs est faux. Donc, il n'y avait rien, mais il reste éloigné, l'instruction est finie, rien n'est passé. Les dossiers qui étaient renouvelés pendant cette période sont de nouveau fermés et sans solution. Donc, les meurtres de la fille à la champignonnière, ce n'est pas résolu, hein? Mais les enquêteurs qui étaient en train de chercher là-dessus sont éloignés du dossier, sans résultat, et sans fondement de cet éloignement.
Sur intervention personnelle de Vanhadeneau.
Certainement, c'est son rapport qui a été décisif dans l'éloignement définitif. Donc, enfin, c'est un exemple d'une faute nette et claire de chef de corps. Où on doit prendre ses conclusions, hein. S'il ne le fait pas lui-même, bon, c'est à nous de le faire, hein.
D'une façon plus générale, vous parlez aussi, finalement, vous comparez presque la Belgique à l'Italie d'avant l'opération Main Propre, un pays entièrement infiltré dans tous ses rouages par la mafia, et vous reliez ça même directement aussi au PS Wallon, vous pouvez un peu élaborer?
Peut-être les propos étaient un peu exagérés. Je n'ai pas voulu dire que tous les parlementaires du PS sont des mafieux, hein, ça c'est clair. Mais c'est déjà 10 ans que je travaille aussi sur la crime organisée, le crime mafieux. Il y avait le rapport du Sénat de la période précédente où je n'étais pas au Sénat. Donc ce ne sont pas mes propos qui disent vraiment que notre pays est menacé de la criminalité mafieuse. Pas organisée, mais même mafieuse. Ça veut dire infiltration, intimidation, corruption, et etc. Donc il faut se munir contre ce danger. Ce que je vois, que les moyens que nous avons pour nous défendre contre ce danger ne sont pas des moyens efficaces. Donc les moyens spécifiques pour la justice, pour contrarier l'infiltration, pour contrarier l'intimidation. Donc, les techniques spéciaux, comme on dit, hein, ça n'arrive pas à être. Ça n'arrive pas à passer le Parlement, à la Chambre, c'est toujours pas passé. Il y a toujours des grandes difficultés. Il y a l'espérance que ça peut passer dans quelques semaines, mais j'ai mes doutes. Hein. Donc, ça ne passe pas. La corruption, la lutte contre la corruption, on n'a plus les moyens. Donc, le service qui lutte contre la corruption ne peut plus agir de propre initiative. Il doit attendre une demande de la magistrature qui, par hasard, trouve des liens avec probablement de la corruption. Mais s'il y a quelque chose qui est très difficile à découvrir, c'est la corruption. Parce qu'on a toujours des murs de blocage entre la demande et le fait de la corruption. Donc il faut un service vraiment très efficace qui peut agir de sa propre initiative pour lutter contre la corruption. Ce service n'existe plus. Donc on n'a plus de moyens de se défendre.
Ils ne sont pas partis tout seuls, donc on les a liquidés, ces moyens.
Oui, on les a
Et
liquidés.
comment est-ce qu'on justifie ça?
Alors, on ne justifie pas ça.
On le fait, c'est.
On a profité de la réforme de la police, profité de la réforme de la police, de diminuer de mettre hors jeu cette service qui existait plus tôt, mais c'est avec le ministre de la Justice de Clercq qu'on a commencé à démolir cette service. On s'est commencé avec quelques personnes qu'on a dû sortir. Monsieur Vermeulen, par exemple, qui était le premier, où on a changé la loi. J'étais à la Chambre à ce moment-là.
Donc, juste pour préciser, il s'agit de fonctionnaires qui signalent une situation qui ne va pas et au lieu de les écouter, on les vire.
Oui. Donc, c'était, comme on dit chez nous, un cloque-leurder. Hein. Donc, monsieur Vermeulen, qui travaillait dans ce service. On a changé la loi dans le temps du ministre de la Justice de Clercq, hein, tout seulement pour virer cette personne. Et c'était le procureur d'aujourd'hui de Namur, monsieur de Vizard de Beaucarmé, qui était le chef de cabinet du ministre de Clercq, qui était responsable pour cet acte. Hein. Ça, je l'ai vécu dans la commission de la justice de la Chambre, étant à l'opposition à ce moment-là. Mais bon, ça c'était le premier pas. Deuxième pas, avec la réforme de la police, on a changé ce service qui lutte contre la corruption.
Donc l'ancien comité supérieur de contrôle.
Voilà, maintenant c'est devenu une service de police sans pouvoir d'initiative et donc, bon, il n'existe plus.
Et tout ça dans le contexte d'une mainmise du PS Wallon sur la Wallonie et même sur la Belgique. On a vu dans l'émission de la semaine dernière, on a parlé de SNCB, et c'est vrai qu'apparemment, même quand personne n'est d'accord à la SNCB, il y a les moyens de faire retourner leur veste aux gens. Pour qu'ils disent comme dit le PS, et Douglas de Koning disait à ce sujet, moi il faudrait soit me donner beaucoup d'argent, soit arriver à me faire chanter pour me faire changer d'avis à ce point-là, mais visiblement il y a des choses complètement cachées qui nous échappent, quoi.
Oui, c'est clair, ce qui se passe en Liège. Il faut une commission d'enquête sur le gare de Liège, hein, le gare TGV de Liège, hein, ça c'est clair. Bah, il y a déjà tant d'éléments qui disent qu'il y a là des choses qui ne sont pas claires. Donc, quand on voit qui sont les gens responsables de la société qui gère le gare de Liège, le gare TGV de Liège, bon, c'est clair qu'il faut une commission d'enquête qui sera très difficile. Et à ce moment-là, on vient de la question précédente, la crime organisée dans notre pays et le pouvoir des partis politiques. En Flandre, on a l'avantage à ce moment que le parti politique qui était au pouvoir pendant plus de 40 ans de le passé est maintenant à l'opposition. Donc, pas à pas, on peut renouveler le système, les relations avec la société civile, le pouvoir qui était dans les mains de cette partie politique qui était super pouvoir en Flandre. Ça n'existe pas encore côté francophone. Je ne dis pas que le PS comme soi est une organisation mafieuse, Mais lutter contre la mafia, ça veut dire que le pouvoir politique et le pouvoir économique est dans les mains de plusieurs personnes le plus que possible. Et quand le pouvoir entre dans les mains de quelques personnes ou dans une partie politique, une seule partie politique, le danger est plus grand qu'on peut influencer, intimider, corrompre. Ce pouvoir. Et ce sont des techniques qui existent partout dans le monde, donc ce n'est pas spécifique pour notre pays. Mais tant que une partie politique est au pouvoir et a bien tout le pouvoir dans ses mains, il est plus susceptible à des menaces de la crime organisée et de la crime mafieuse.
Ou des infiltrations, que des membres soient mafieux, on pense comme par hasard à Monsieur Matteau, par exemple. Parce que vous dites aussi, j'aimerais revenir là-dessus, il faut des commissions d'enquête, mais parfois quand il y a des commissions d'enquête, ça change rien du tout parce que les commissions sont bloquées. Vous donniez dans P Magazine l'exemple de la commission Sabena, et là aussi, comme par hasard, on retrouve le nom de Guy Matteau.
Oui, on les retrouve. C'est toujours le même nom qu'on retrouve. J'ai vécu dans la commission des trous, car à un certain moment, surtout dans la deuxième phase de la commission, les partis politiques traditionnels ont bloqué le travail parce que ça devenait trop dangereux pour le pouvoir politique en place dans les dossiers. C'est la même chose qu'on voit dans le dossier de Sabina, c'est la même chose qu'on voit dans les enquêtes qui sont demandées mais qui ne sont pas autorisées. À l'époque, on avait demandé une commission d'enquête sur l'affaire Coles. C'était prêt, c'était même décidé au niveau de la Chambre des députés, mais ce n'a pas pu commencer à un certain moment. Par blocage politique. On a des autres affaires. J'ai demandé une commission d'enquête sur l'affaire de Matzibil et l'affaire de Zix. Non, on n'arrive pas. On demande une commission d'enquête sur la fraude de visa, qui est manifestement établie, même au niveau judiciaire, qu'il y a vraiment eu des fraudes. Très important au niveau de Sofia, par exemple, on n'arrive pas
Donc
à.
c'est une histoire de faux passeports ou de passeports vierges qui disparaissent d'ambassade, etc.
C'était des passeports qui ont été donnés pour des échanges culturels et économiques entre le pays d'Est et notre pays, mais qui sont utilisés par le crime organisé pour entrer dans notre pays. Ça, c'est clair. L'affaire Leb. L'affaire Leb, c'est une affaire flamande. Donc, c'est bien de parler une fois d'une affaire flamande, parce qu'on peut m'accuser de faire d'une affaire communautaire. Ce n'est pas mon but, hein, mais l'affaire Leb, c'était à Ypres, hein, donc en Flandre. Un type qui a donné des visas et des passeports diplomatiques.
Bah voilà pour les constats. Maintenant, on est le 12 juin et ça fait donc 3 ans pile poil qu'il y a eu les élections législatives où les écolos, enfin les Verts en général, ont fait un bon score et sont arrivés au gouvernement. On sait qu'en politique tout va lentement, mais 3 ans et ne rien pouvoir changer, est-ce que ça vous incite à continuer?
Rien ne pouvoir changer sur ces.
Non, mais les constats que vous faites sont vraiment accablants et les changements que vous avez pu faire sont minimes par rapport à vos constats.
Au niveau de la justice, oui. Au niveau de la justice, je suis d'accord. Mais il y a des autres changements qui sont quand même déjà mis en place. Hein. Je suis content pour le travail qu'on a déjà fait dans cette première période. C'est la première période qu'on est au pouvoir, donc on a beaucoup à apprendre et c'est la première fois qu'on est dans le système du pouvoir, hein, et on ne nous aime pas au niveau du pouvoir.
Mais quelque part, je comprends, c'est peut-être le moment justement de faire entrer en jeu l'interview d'Olivier Deleuze, parce que ça a suscité pas mal de réactions, dans le sens où on peut juxtaposer l'action des Verts au gouvernement et leur programme. Et là, on en arrive à des choses assez contradictoires pour l'émission. Je vais vous faire écouter un extrait de l'interview d'Olivier Deleuze et je vous demande de réagir à ça.
Je pense que vous avez appuyé un gouvernement qui appuyait les frappes américaines très pétrolifères en Afghanistan. Ça
Oui,
vous
ce n'est pas
pose pas de
pétrolifère
problème?
en Afghanistan. Eh bien, je vais vous dire oui. Et moi, je n'étais pas opposé, et je ne suis toujours pas opposé à cette décision des frappes américaines en Afghanistan, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier le problème qui se pose, à la base qui se pose, c'est qu'il y a effectivement, moi, je suis convaincu que les faits, c'est que suite à la faiblesse de l'Afghanistan, suite à son histoire, où on a aidé une fois les Moudjahidines parce que c'était les Soviétiques, etc., etc., je suis d'accord, suite à ce système d'allées et venues, s'est établi en Afghanistan des gens qui sont des terroristes antidémocrates, moyenâgeux et extrêmement dangereux, par rapport auxquels je n'ai aucune espèce de scrupule de dire que si ces gens-là, il faut les contenir par des frappes, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Et si les frappes sont américaines, c'est parce que l'Europe n'a pas une capacité de défense, une capacité militaire suffisante. Moi, je suis pour que l'Europe ait une capacité militaire bien plus grande qu'elle n'a aujourd'hui, parce que je crois que ça amènera la paix davantage qu'aujourd'hui, et je pense aussi que ça réduira l'influence américaine davantage aujourd'hui. Et donc, pour parvenir à une politique plus équilibrée, je ne pense pas qu'il faille négliger ce qui se passe en Afghanistan. Je pense au contraire que l'Europe devrait se donner les moyens de rééquilibrer. Et pour rééquilibrer, il faut une force, il faut de la force, j'allais dire bête et brutale. Je veux dire, il faut, ne fût-ce que comme dissuasion, il faut une force militaire européenne crédible.
Le premier point du programme d'écolo pour ce genre de sujet, c'est seules les Nations Unies sont habilitées à déclencher des interventions. Et il y en a d'autres, comme dans les pays en voie de développement, c'est le développement durable qu'il faut et pas de développement belliqueux ou quel qu'il soit. Et voilà, aussi bien Olivier Deleuze que vous êtes dans un gouvernement qui a appuyé ces frappes en Afghanistan, qui était lié au pétrole, qui servait que les intérêts américains et qui était très préjudiciable aux populations locales. Alors, du coup, on se pose des questions.
Oui, je comprends. Mais immédiatement après le 11 septembre, on avait la possibilité de décider sur l'article 5 de la Convention de l'OTAN. Et on avait le choix, ou bien on disait non, on n'intervient pas. Et à ce moment, les États-Unis étaient tout seuls, prêts à faire ce qu'ils veulent. Mais à un certain moment, de dire la solidarité au sein de l'OTAN joue ici, et on met les Américains dans la coordination de l'OTAN et dans la solidarité de l'OTAN, on a quand même un certain pouvoir, on espérait quand même d'avoir un certain pouvoir d'influencer le comportement américain.
Alors je vous écoute, ça a eu lieu?
Oui, ça a eu lieu, oui. Il faut bien dire qu'il y avait eu pas mal de temps entre le 11 septembre et je pense que c'était le 10 ou 12 octobre.
Vous trouvez que c'est pas mal de temps, franchement, entre
Oui,
un acte et des représailles qui nécessitent des
oui.
semaines de préparation, vous
Non.
trouvez que c'est on a eu le temps de réfléchir,
Non.
de trouver les coupables réels, etc.?
On n'a pas trouvé le coupable réel, hein, mais je pense
Est-ce que
quand même.
vous, par exemple, en tant que parlementaire, vous avez vu des preuves de l'implication d'Al-Qaïda, de Ben Laden, de qui que ce soit d'Afghan? Parce que finalement, parmi les pirates de l'air, il y avait principalement des Saoudiens, mais on n'a jamais inquiété l'Arabie Saoudite.
Là, on a un problème. Hein. Donc, les plus grands coupables, ce sont probablement des Saoudiens.
Croyez-vous pas finalement que le fait d'avoir incorporé finalement cette attaque au sein de l'OTAN, ce n'est toujours pas pour affirmer un poids prépondérant des États-Unis au sein de telle structure et de finalement de faire des pays européens des satellites des États-Unis qui ne sont là que pour confirmer et comme gage de garantie de ces frappes? Croyez-vous
Ouais.
qu'on s'est fait un peu avoir là-dessus, une fois de plus?
On est pris
On a
là-dessus.
été mangé?
On était mangé, oui. Oui, après coup, oui.
Avant,
Oui.
ça, on pouvait s'en douter un petit peu avant, non? Vous croyez pas?
Mais on s'en doutait.
Ouais. Mais
Mais
donc, vous avouez
on est
finalement...
les seuls qui ont. Mais on nous a même approché qu'on a entendu une heure seulement, pour poser des questions à ce moment vital-là. Mais on a pris cette petite période de penser un petit peu, de voir ce qui se passe. Mais Et le plus grand danger, là je suis d'accord avec Olivier Deleuze, c'est le super-pouvoir des États-Unis en ce moment qui n'ont aucun contrepoids. Mais moi je ne suis pas d'accord qu'une force militaire européenne sera à un certain moment un contrepoids pour les Américains. Seulement une force politique, un rassemblement des idées politiques de l'Europe peuvent avoir un contrepoids contre les États-Unis. Jamais au niveau militaire. Ça, c'est impossible. Le militarisme a son propre logique et ses propres moyens de travailler. Et là, notre moyen de penser comme vert n'entre jamais dans cette logique.
Mais donc, je récapitule sur l'Afghanistan. Vous craignez que vous alliez vous faire entuber. Vous avez voté oui, vous vous êtes fait entuber et vous n'en tirez pas de conclusion.
Oui, on tire des conclusions là-dessus. Oui, certainement. Un nouveau pas des Américains, même comme on dit, vers l'Irak ou vers les autres pays arabes, ça serait impossible, ça sera sans nous, hein? Ça c'est clair. Mais qu'est-ce que nous. Il faut être un peu conscient de notre pouvoir aussi. Hein? Je pense qu'avec l'Allemagne et avec la Belgique, nous sommes les derniers deux pays en Europe où il y a des vers au pouvoir, espérons que ça restera encore, hein, fin de l'année. Hein. Mais il faut être au pouvoir pour avoir un peu l'information et pour.
L'information. Moi, je vois Olivier Deleuze qui dit non, en Afghanistan, ça n'avait rien à voir avec le pétrole. Il est au gouvernement, il est à l'énergie et il a toute l'information qu'il veut et il vient encore affirmer que ça n'a rien à voir avec le pétrole. Soit il ment, soit il est con, je suis désolé.
Si c'est bon, si le dessin est con, oui. Ah oui, ça trouve tout à fait. Si les Américains font des pas, ce sont des raisons économiques, hein, soyons clairs. Hein. Jamais des raisons politiques ou des raisons de démocratie.
Vous ne sentez pas les mains sales après avoir entériné ce genre de décision dont vous saviez à l'avance où ça allait mener?
Mais si nous n'étions pas au pouvoir, hein, ça passerait encore peut-être un peu plus vite. Hein.
Oui, et qu'est-ce que ça change au final? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que votre action a changé?
On a fait quelques remarques. Je suis d'accord dans la marge, hein, oui. Mais si nous n'étions pas là au pouvoir, il n'y avait même pas cette remarque. On a appris ce que ça veut dire être au pouvoir et les conséquences que ça nous dit. Et ça nous salit les mains, oui, ça c'est clair. Donc ça veut dire que dans l'avenir, ça sera plus dur pour nous convaincre, ça c'est clair aussi.
Vous parlez finalement de l'importance d'avoir des partis verts au sein de gouvernement comme contrepoids. Vous dites en Belgique, l'Allemagne et la Belgique sont les deux derniers pays en Europe. Mais finalement, comme l'a fait Deleuze, quand on écoute les propos de Deleuze ou même d'avoir finalement confirmé cette attaque en Afghanistan, ça me semble très loin des idées vertes quand même.
C'est le principe, oui. En ce moment, au début des difficultés, oui, c'était pour nous très difficile pour prendre ces décisions. Oui. Et le fait que la guerre sur le terrain est terminée en ce moment, certainement sur les grandes attaques, ça c'est une bonne chose pour nous parce que sinon, on était déjà sorti du gouvernement.
Plus concrètement, donc, en vous écoutant parler, donc, d'après ce que vous dites au niveau belge, il y a finalement les dossiers avancent trop lentement, pas assez vite. Au niveau international, vous avez été très déçu de finalement du comportement américain. Vous avez peut-être même eu une certaine leçon d'adolescence, ce qui vous a peut-être rendu plus adulte en tant que parti. Maintenant, globalement, quel est le bilan global que vous avez face à la situation que vous avez au gouvernement maintenant, au gouvernement arc-en-ciel? Est-ce que vraiment Aguilef a sa place? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi les dossiers que vous vouliez engager ou alors c'est mitigé?
On n'a pas tout réussi, hein? Ça c'est clair. Mais je pense quand même qu'on est en train de changer quelque chose. Je pense que la régularisation assez massive, qui a été avec toutes les difficultés qu'on a connues dans cette phase, sans les verts, on n'a jamais obtenu. On n'a jamais réussi là-dessus. Je vois que dans tous les pays voisins, l'atmosphère anti-étranger, que voit maintenant même aux Pays-Bas, si nous sortons du gouvernement, on va dans la même voie. Avec nous, ça ne sera pas possible d'une telle manière.
Donc, quand on vous écoute parler, c'est plus un rôle de contrepoids qu'un rôle d'impulsion ou qu'un rôle moteur au sein d'un gouvernement. Vous êtes là pour essayer de rattraper les meubles, mais pas pour essayer de les améliorer.
Tant que nous avons entre 10 et 20 % de l'électorat, c'est notre position. Si l'électorat nous dit, nous donne le pouvoir de 15 à 20 et 25%, là, on devient un facteur moteur. Mais ce sont les électeurs qui doivent nous donner ce pouvoir. Donc, tant que nous, si nous diminuons encore au-dessous de 10%, à ce moment, j'ai dit, nous n'entrons plus dans le gouvernement, parce qu'on n'a plus le contrepoids, le minimum contrepoids qui est nécessaire. Entre 10 et 15%, on peut avoir un contrepoids essentiel, et c'est ça que nous faisons à ce moment-ci. Hein? Et on a des éléments d'échange qui sont en train de commencer. Mais quand on a 20 à 25% de l'électorat, là, on doit devenir un facteur moteur. Mais on n'est pas toujours là, on est toujours démocrate. Hein? Donc, même, et surtout les Verts sont des démocrates. Donc, l'électorat nous donne le pouvoir que nous avons. Et c'est à eux ou bien de nous renforcer, ou bien de dire les Verts ne sont pas nécessaires. Moi, je suis convaincu que nous sommes vraiment nécessaires au pouvoir. Parce qu'il y a les trois. On a les libéraux, la discussion libérale pour les entreprises, pour l'économie, pour la globalisation. On a le facteur socialiste, hein, comme on dit, et on a le facteur écologiste. Qui l'écologisme en va les deux autres. C'est un peu la synthèse des deux autres, mais on voit que ces trois pieds de la discussion sont très importants maintenant dans chaque discussion de société. Et quand un de ces pieds disparaît dans le pouvoir politique, ça c'est une diminution du niveau démocratique de la politique. Donc c'est très important de continuer de cette phase. Donc on n'est plus dans le temps qu'on dit qu'il faut les chrétiens et il faut les autres pour l'équilibre idéologique dans les deux blocs, hein, chrétiens et les autres. Donc ça s'est passé, donc les gens ne passent plus dans cette piste, donc je pense que cette discussion, ça s'est disparu. Maintenant, on a des idéologies purement économiques, les libéraux, donc les visions des libéraux. On a un peu la solidarité le plus fort exprimée par les socialistes classiques, par les syndicaux et les syndicats, etc. Donc ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Mais on a de nouveaux mouvements de l'écologisme et de synthèse de tous qui vit dans le monde, qui doit vivre ensemble. Ça, c'est notre mission des écologistes. Et donc, il faut, dans la discussion démocratique de la société, il faut ces trois composants pour avoir un équilibre de société. Et pour moi, c'est donc très important de continuer dans le pouvoir.
La digue est un bateau flottant en élastique. Le kaki de la mer épouse le brun des cieux. La croupe de mon pays se dévore sans la trique. C'est le parfait décor où je me vois tout vieux. Les montagnes s'étiolent en dessins angéliques. Des Ardennes à la côte, ce relief est à vous. Je souris du pétale en variomatique. Il pleut dans le soleil ou l'inverse. Dans le loin, pour fleurir l'arémique de la craie, de l'argile et la terre sans le feu. Dans les bois, chaque pas fait le bruit du plastique. Les sanglochons pleurotent dans le rire de vieux bœufs. Des villages en argent et totécaphoniques jouent aux dames, aux échecs sur des plans silencieux. Des travaux, puis de rien, tuent l'archéologique. Les pigeons sont des rats, donc les rats volants. Les gens sont dans des boîtes, des casiers bien pratiques. Les soldats du bon prince portent plumes d'émeutes. Les prisons sont mouroirs pleines d'écume mouétique. Les violons qui résonnent ont des cris disgracieux. La spécule fait le lien de requins de fichtiques. La brocante des parkings, c'est de l'or pour les queues. Y a du sang sur le sol, les shoppings sabbatiques. La justice est en loge, la pituite plein les yeux. Formation flottille sur des eaux amnésiques. Les pédophobes sont seuls ne vendant que des pneus. Pas d'argent dans le sang, ça fait peur à nos flics. Pour pour un crime oublié, les prochains viennent de viande. C'est ici Middle-earth, la scission symétrique, car quoi qu'on pense, ici c'est le juste milieu. Pour éviter conflit, consensus et logique, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout se coupera en deux. Des chiens végétariens et des loups faméliques font duel de grands mots sur un ton sentencieux. On règle en parlement la pétoche de mon fric. On se pince sans se mordre en grès de feu pisseux. Des sans-rien presque heureux mangent des frites en mastic sur couronne étoilée. On hisse le drapeau bleu. La ligne des droits de l'aube se réveille en musique. Le mariage fait la une, l'expulsion fait la deux. Le carburant des murs, c'est le sang de l'Afrique. Qu'on presse pas le dimanche pour des rois oublieux. Pour fermer à culpa, y'a les chants liturgiques, les trois singes mangent des moules et la soupe a des yeux. Des tintins en bas plus de ronge des freins cathodiques. C'est le gras et le rire qui fait grincer les pieux. C'est des boutons qui tournent en rond-point marsupique. C'est parfois la tristesse qui peut rendre joyeux. On se noie dans la bière pour rester sympathique. Et les relances acides des aciers sont vicieux. Tu marches sur un tas de canettes métalliques. Jamais, au grand jamais, ne prends rien de sérieux. Quand tu écrases un blues, il ne fait pas de gimmick. Il t'envoie à la gueule ton gros pas prétentieux. Les lucarnes sont pissoires, les lucioles sont moustiques. Lente est la poésie de l'ennui paresseux. Il peut dracher orange dans le cacophonique. Les majorettes envolent tous les vrais amoureux. Je touche du bout des doigts le vermeil de Cédric. Je gigote tout mon sou et je vis bien heureux.
L'attention des médias se porte actuellement sur la Coupe du Monde de football. Les unes des quotidiens semblent être très préoccupées par l'équipe des Diables Rouges. Toujours est-il que certains sujets sont totalement passés à la trappe. C'est le cas du comité préparatoire du sommet mondial sur le développement durable qui s'est déroulé à Bali du 27 mai au 7 juin dernier. Elle fut un échec cinglant. Il s'agit de la quatrième réunion préparatoire au niveau ministériel en vue du sommet qui se tiendra à Johannesburg du 26 août au 4 septembre. La conférence de Johannesburg doit représenter le deuxième sommet de la Terre. La première édition s'est déroulée à Rio il y a 10 ans de cela. Elle devait mettre sur les rails le développement durable. À l'époque, les 106 chefs d'État avaient adopté l'agenda 21, qui est un plan d'action en 2500 mesures pour le 21e siècle. Le but était de diminuer la pauvreté de moitié d'ici 2015. 10 ans après, on constate l'échec de cet agenda. 6000 délégués représentant près de 173 pays et plus de 110 ministres se sont retrouvés à Bali pour définir un plan sur la lutte contre la pauvreté et la quête du développement durable. L'échec de Bali a surtout souligné une polarisation face au concept de développement durable. Avec d'un côté naturellement les États-Unis, l'Australie, le Canada et l'Arabie Saoudite, de l'autre l'Europe et les pays du Sud. Il faut dire que les États-Unis possèdent une image plus que libérale du développement durable, un développement organisé en partenariat avec les entreprises privées. Washington prône également la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'ouverture des marchés. En bref, la conception américaine de la lutte contre la pauvreté, c'est le fameux chacun pour soi. Et puis la bonne gouvernance, est-ce que vraiment les États-Unis y sont pour quelque chose là-dedans? Et puis face à ça, le G77 emmené par le Venezuela se sont opposés à la position minimaliste des États-Unis. Les pays en voie de développement exigent davantage de garanties financières au plan des investissements et des perspectives sur les débouchés de leurs produits sur nos marchés. Mais bien entendu, les lois protectionnistes européennes sur l'agriculture empêcheront tout cela. Et puis n'oublions pas que George W. Bush a décidé de donner beaucoup d'argent aux agriculteurs américains. Donc la seule réponse des USA face à ces demandes a été un niet ferme et bien retentissant. Alors dans le traitement donc de cet échec de Bali, peu de journaux en ont parlé. En Belgique, seul Le Soir a dépêché un envoyé spécial sur place.
C'est appréciable.
C'est appréciable. Christophe Schoen, qui a justement durant tout le courant de cette conférence écrit de nombreux articles sur le thème et sur différents thèmes également, comme sur d'autres acteurs qui sont dans cette cette réunion. Il a fait un excellent article sur les ONG, il a fait un excellent article également sur le groupe pétrolifère Exxon, qui est depuis plusieurs années dans toutes les plus grandes catastrophes écologiques.
Champion du développement durable, hein, Exxon, on le sait.
Exactement. Et justement, à propos d'Exxon, on peut souligner, d'après l'article donc de Christophe Schoon dans Le Soir, ExxonMobil reste sous pression. Le premier groupe pétrolier mondial, ExxonMobil, donc Esso, il encaisse mal la campagne de dénigrement de l'organisation écologiste Greenpeace. Pire, l'entreprise doit désormais faire face à une fronde interne. Un cinquième des actionnaires ont voté une motion qui incite la direction à s'engager dans la voie des énergies renouvelables, à l'instar de Shell et de BP. On constate finalement que ce n'est pas par bon esprit qu'ils le font, mais uniquement parce que les concurrents ont décidé de se lancer dans la course.
Et du coup, le monde va changer, c'est cool.
Ah, ça c'est certain. Remercie Exxon. Et puis bon, dans les journaux français, grande déception, Libération, on n'en a absolument pas touché un mot. Seul Le Monde a repris quelques articles de l'AFP par rapport à ça. Et puis pour terminer, une petite dernière chose, la conclusion de Christophe Schoon dans Le Soir, qui décrit « Bali n'accouchera même pas d'une souris », un fait souligné par quatre ONG clés, Amis de la Terre, Greenpeace, Oxfam, WWF, qui n'ont pas de mots assez durs pour stigmatiser un résultat médiocre, sans substance et manquant d'ambition. Voilà comment on pourrait qualifier ce sommet de Bali. On donne rendez-vous donc pour l'échec de la conférence de Johannesburg en août prochain.
Et voilà, c'était la dernière livraison d'Alter Echo jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez entendu comme musique d'abord Mathieu A, c'est sur le CD Bruxelles Parallèle. Ça s'appelait Yé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Et eux, oui, c'est du langage A. Et puis Daniel Hélin, Carte Postale, c'est une petite description lyrico-poétique un peu délirante de la Belgique. Ça allait très bien avec l'interview de Franz Lozy. N'oubliez pas nos rediffusions vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2, mardi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4 et puis le site internet www.collectif.net/alterecho en un seul mot et avec CH. Vous savez tout, à la semaine prochaine.